7-9.
Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le mercredi 20 octobre. Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, après des années de débats et de coups tordus, l'explication à la barre du tribunal de Versailles de ce qui secoue le football français depuis 5 ans maintenant. L'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, on voit ça en détail après les autres titres.
En attendant le dispositif promis par le gouvernement pour alléger la facture d'essence d'ici à la fin de la semaine, le retour en grâce du covoiturage. 10 ans après la chute de Kadhafi en Libye, rencontre avec un milicien qui continue à se battre pour la démocratie. Et puis du lavandin cultivé dans le grenier à blé de la France. Première récolte prévue cet été. Reportage à la fin de ce journal.
Et nos invités ce matin, 7h50 Léa.
Elle est une des rares femmes à diriger une multinationale. Née au Maroc dans une famille défavorisée, elle est aujourd'hui PDG du géant belge de la chimie Solvay. C'est un beau parcours de vie qu'on vous fait découvrir à 7h50. On reçoit Ilham Kadri.
À tout à l'heure Léa, 8h20, le grand entretien de la matinale avec l'ancien président de la République, François Hollande. Il publie Affronté aux éditions Stock, Affronté ER. À la fin, vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
France Inter. Quand des histoires de voyous croisent la route des étoiles du sport, quand des footballeurs de renom y laissent leur carrière ou leur réputation. Ouverture aujourd'hui à Versailles devant le tribunal correctionnel de l'affaire de la sextape qui ébranla le football français en 2015 et mit au banc de l'équipe de France l'un des prévenus du jour, Karim Benzema. Noël Le Graët était alors président de la fédération.
J'ai donc décidé, parce que c'est pas la commission de discipline, ce n'est pas l'éthique, c'est uniquement une décision du président de la Fédération française de football. Aujourd'hui, Benzema n'est plus sélectionnable en équipe de France.
Karim Benzema, aujourd'hui brillant avec les Bleus et candidat au Ballon d'Or. Quant à Mathieu Valbuena, il n'a plus mis les pieds en équipe de France. Alors, essayons d'y voir clair dans cette affaire où depuis 6 ans, tout est question d'interprétation. Bonjour Mathilde Vinceneux.
Bonjour.
5 prévenus jugés à partir d'aujourd'hui pour tentative de chantage sur la victime, Mathieu Valbuena, incité à payer en échange de la non-diffusion d'une vidéo intime.
Oui, l'affaire commence quand Mathieu Valbuena veut faire transférer des données sur son téléphone. Il le confie pour ça à Axel Angot, un homme qu'il connaît. Il est responsable de toutes ses opérations informatiques. Mais sur le téléphone du joueur, Axel Angot découvre une vidéo intime. Il en fait une copie, puis contacte un ami avec qui il a une dette commune. Il espère la régler en faisant chanter Valbuena. Son ami, lui, est bien connu dans le milieu du foot pour faire du commerce d'objets de luxe. Il s'appelle Mustapha Zouaoui et il va tenter de mettre la pression sur le joueur. Il contacte pour ça une connaissance qui va appeler Valbuena en numéro masqué, le menacer par SMS. Mais le joueur porte plainte et c'est un policier qui prend le relais pour échanger avec le maître chanteur. Zouaoui choisit donc un autre intermédiaire. Il contacte l'ami d'enfance de Karim Benzema, coéquipier de Valbuena.
Et c'est là, Mathilde, que Karim Benzema entre en scène avec cette fameuse discussion à Clairefontaine lors d'un rassemblement de l'équipe de France.
Oui, Benzema invite Valbuena dans sa chambre. Il lui propose de lui présenter quelqu'un pour éviter que la copie de la vidéo soit diffusée. Et juste après cette discussion, il appelle son ami d'enfance et lui rapporte que Valbuena ne les prend pas au sérieux, qu'il ne va rien lâcher. Après son interpellation, Karim Benzema expliquera avoir fait ça par amitié pour son coéquipier. Une amitié très hypothétique selon les enquêteurs. L'attaquant des Bleus risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende.
Mathilde Vinceneux, le procès débute ce matin à 9h. On ne sait pas si Karim Benzema sera présent. Lui qui souhaite, je cite, que la mascarade s'éteigne pour toujours. Ses avocats ayant réclamé en vain une confrontation avec Mathieu Valbuena. L'audience est prévue jusqu'à vendredi.
Il est 7h04, chèque. Carburant ou baisse de taxes, le gouvernement, Anaïs, doit trancher avant la fin de la semaine.
Et les deux options sont encore sur la table pour aider les Français à faire face à la hausse du prix des carburants à quelques mois de la présidentielle. L'exécutif cherche une solution technique facilement applicable et juste. En attendant, sur la route, avec un litre de sans-plomb à 1,62€ en moyenne, c'est le retour en grâce du covoiturage après un désamour marqué pendant la pandémie, comme ici à Paris, Margot Turgy.
Martin est ingénieur pour
aller travailler à Rungis, il faisait le trajet seul en voiture avant de basculer en covoiturage en septembre.
La station essence juste à côté de mon bureau, elle affichait 1,47€ pour du sans-plomb 95 et le prix a grimpé jusqu'à 1,58€. Depuis 3 semaines à peu près, j'ai fait 13 covoiturages. Ça m'a permis de gagner 26€.
Martin n'est pas le seul à avoir adopté le covoiturage face à la flambée des prix. Depuis la rentrée, le nombre de trajets proposés sur BlaBlaCar Daily a doublé, son directeur Adrien Taon.
On relie ça vraiment à la hausse du prix de l'essence, puisqu'on voit surtout un effet côté conducteur. C'est vraiment les nouvelles personnes qui commencent à covoiturer et on voit vraiment une augmentation partout.
Un redémarrage inattendu après la crise sanitaire et le covoiturage pourrait devenir une vraie alternative face à la hausse des prix du carburant, à condition que les pouvoirs publics mettent la main au porte-monnaie. C'est ce qu'estime Julien Honard, patron de l'entreprise Klaxit.
Pour que l'automobiliste trouve un intérêt économique, il faut absolument que la collectivité subventionne le trajet. Pour l'automobiliste, finalement, payer 2€ un trajet de covoiturage, c'est l'essence qu'il aurait mis dans sa propre voiture. Donc il faut absolument que le conducteur soit rémunéré et que le passager voyage gratuitement avec un trajet financé par la collectivité.
Le gouvernement affiche aussi sa volonté d'encourager le covoiturage. Objectif, 3 millions de trajets quotidiens d'ici 2024.
Les députés planchent, eux, toujours sur le projet de loi Covid. Une cinquantaine d'amendements étudiés sur les 350 déposés. Les oppositions ne veulent pas prolonger le pass au-delà des échéances électorales. L'idée d'un passe pour les plus de 65 ans, validé uniquement après la dose de rappel, est aussi étudié par le gouvernement. À l'extrême droite, le probable candidat à la présidentielle, Éric Zemmour, était hier soir à Versailles, invité par les Éveilleurs, association née dans le sillage des mobilisations de la Manif pour tous. L'occasion, Élodie Forêt, de faire coup double, politique et financier.
Devant la salle au public plutôt aisé de Versailles sont distribués les bulletins de promesses de dons, comme à Philippe, ex-électeur du Front National. Ce qu'il aime chez Éric Zemmour,
la sincérité, ce qui va faire qu'il va écraser tous les autres.
À l'intérieur, enjeu plus politique, au premier rang, les potentiels futurs alliés avec qui pourraient se négocier les législatives, Jean-Frédéric Poisson ou Laurence Trochu, présidente du mouvement conservateur, émanation politique de la Manif pour tous.
Éric Zemmour peut occuper une place qui a été laissée vacante par la droite elle-même, notamment depuis que François Fillon a laissé la place dans des conditions difficiles, depuis que Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau ne sont pas candidats dans le cadre de LR. Donc les conservateurs aujourd'hui sont un peu déboussolés en fait.
Des conservateurs qui ne se reconnaissent plus dans LR et prêts à adouber Éric Zemmour dès qu'il sera candidat. Mais le soutien de l'ex-Manif pour tous ne signifie pas la reprise immédiate de ses combats, prévient Éric Zemmour.
Je pense que le mariage homosexuel a été une erreur, je maintiens. Maintenant, est-ce qu'il faut revenir là-dessus? J'en suis pas sûr. Le sujet, c'est l'identité de la France. C'est ce sujet qui va rassembler des électorats disparates qui se sont séparés depuis longtemps.
Rassembler la bourgeoisie et la classe populaire autour des questions identitaires et non des questions sociétales. Une stratégie hier soir validée par la salle.
Reportage à Versailles d'Élodie Forêt. 3 ans de prison dont un ferme et 5 ans d'inéligibilité. Peine plus lourde en appel pour le maire de Sanary-sur-Mer, condamné pour détournement de fonds publics, pour des passe-droits ou des promotions douteuses. Ferdinand Bernard devra purger sa peine de prison à son domicile sous bracelet électronique. Réélu sans interruption à Sanary-sur-Mer depuis 1989, il a annoncé hier qu'il cessait immédiatement ses fonctions électives. Et puis à Marseille, un artisan de 34 ans en garde à vue, soupçonné d'avoir envoyé des menaces de mort à un couple d'enseignants, a priori à cause d'un différend personnel sans rapport avec leur profession.
Il est 7h09, c'est l'un des géants mondiaux de l'exploitation pétrolière mondiale.
Total, devenu Total Energy, savait depuis 50 ans que son activité était néfaste pour le climat, mais a adopté une position de déni jusque dans les années 90, mettant en doute la science. Étude aujourd'hui de chercheurs français et américains qui se sont plongés dans les archives de la multinationale. Dès 1971, une publication interne dans la revue Total expliquait que la combustion d'énergie fossile conduisait à la libération d'énormes quantités de gaz carbonique assez préoccupantes. Le lobbying de Total contre les réglementations climatiques, c'est aussi à lire sur franceinter.fr. C'était il y a pile 10 ans, le colonel Kadhafi était capturé et tué à Sirte en Libye. Moment clé dans l'histoire du pays qui, après 42 ans de pouvoir absolu, sombra dans les guerres entre milices. 10 ans plus tard, Maureen Mercier a rencontré l'un de ces miliciens, Ali. Il se bat toujours parce qu'il croit en la démocratie.
Ces 10 dernières années, Ali n'a connu que la guerre.
It's big explosion, you know.
Ali, rencontré sur les lignes de front, Kalachnikov toujours en bandoulière, n'est plus le même.
Je fais des cauchemars. Je rêve que quelqu'un essaie de me tuer. Des choses comme cela, oui.
Plus tard, par téléphone, Ali se confie. Lors de la révolution, il a 16 ans. Il voit son père, opposant au régime, mourir sous les balles des hommes de Kadhafi.
Mon père s'est fait tirer dessus par les hommes de Kadhafi. Une balle dans l'estomac. Je n'étais plus le même après cela. La seule chose que je voulais ensuite, c'était de combattre ceux qui avaient tué mon père.
Non pas pour se venger, c'est bien plus profond que cela, par loyauté. Parce qu'en mourant, son père lui a appris la quête de la liberté.
Je suis tellement fier de lui, mon père se battait pour son pays.
À tous ceux qui disent « c'était finalement mieux sous Kadhafi », il leur réplique
« On vivait comme des moutons. Ces gens n'ont aucune idée de ce que c'était que vivre sous Kadhafi. Moi, je trouve que la Libye est bien mieux maintenant. Perdre un père, ses amis, c'est le prix à payer pour notre liberté. »
Ali tente aujourd'hui de retrouver une vie normale, mais il le dit, si un homme autoritaire tente à nouveau de s'emparer du pouvoir, il reprendra les armes.
Une réunion d'urgence à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU, objet la Corée du Nord. Le pays affirme avoir tiré un missile balistique depuis un sous-marin. Si c'est confirmé, c'est une avancée technologique considérable de Pyongyang dotée de l'arme nucléaire et qui lui permettrait d'avoir une capacité de seconde frappe. Retour en France avec ces touches de couleur violette dans les plaines céréalières de la Beauce. 70 agriculteurs du centre Val-de-Loire se lancent dans la culture du lavandin, cette plante typiquement provençale, histoire de se diversifier avec une aide du plan France Relance, le reportage de Delphine Evenoux.
Pour l'instant, ce sont de petites touffes.
Vous avez à peu près 4 hectares dans cette parcelle-là et à peu près 6 dans l'autre. Ça change un petit peu du jaune des céréales.
Hugues Robert, agriculteur à Loigny-la-Bataille, s'est lancé dans l'aventure.
L'année dernière, il y avait du blé. L'année d'avant, il y avait du maïs, mais c'est des terres, vous voyez, avec des pierres, c'est superficiel. Donc, je ne peux pas faire de pommes de terre, je ne peux pas faire de betteraves, je ne peux pas faire de petits pois. C'est des terres, voilà, qui sont très séchantes. On a un potentiel qui est limité avec ces surfaces-là.
Or, le lavandin a besoin de peu d'eau, de quoi le convaincre, même s'il faut un peu plus d'huile de coude au démarrage.
Là, il y a beaucoup de désherbage manuel. Les 2 ou 3 premières années, il faut que ça soit le maximum propre pour les années suivantes. Après, je pense qu'on sera libéré de ce travail de désherbage et puis que, voilà, on profitera pleinement de la culture.
Les fleurs seront ensuite transformées en huiles essentielles, un marché stable et un peu de sérénité, explique Eric Brault, président de la coopérative Skael, qui a mis sur pied le projet.
On a un contrat qui est pluriannuel, donc ça sécurise l'agriculteur. Nous, coopérative, on est en charge de construire la distillerie, là à quelques kilomètres, qui va, elle, récupérer l'ensemble des récoltes et qui va les distiller. Et nous, à charge de notre part, de la recommercialiser auprès d'un fournisseur.
Avec un débouché tout trouvé, la Cosmetic Valley, dans l'agglomération de Chartres, la première récolte du lavandin de la Beauce est prévue pour l'été 2022.
Et on termine avec un match compliqué à vous, entraîneur du PSG, mais le résultat est la victoire 3-2 de Paris contre Leipzig hier soir vers les qualifications pour la Ligue des champions de football.
Merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, c'est le zoom aujourd'hui sur la féminisation de l'industrie musicale.